Les salaires des grands patrons, on vous en parle assez souvent, des salaires parfois exorbitants. Bonjour Dominique Bayard.
Bonjour à tous.
Et certains actionnaires se révoltent. Parfois, ils trouvent un allié de poids dans un fonds pétrolier norvégien, le plus grand fonds souverain au monde. Ils cherchent à encadrer le niveau des rémunérations.
Oui, jusqu'à maintenant, les revenus extravagants des grands patrons scandalisaient surtout les pourfendeurs des inégalités et bien sûr les salariés des entreprises concernées. Mais depuis quelques mois, les actionnaires eux-mêmes achètent de moins en moins cette légende contemporaine sur les talents et les mérites de ces dirigeants, justifiant des émoluments toujours plus élevés. Dans les assemblées générales, ils votent souvent maintenant contre les hausses de salaire du directeur exécutif. On l'a vu la semaine dernière en France, à l'assemblée de Renault, debout contre la hausse du revenu de Carlos Ghosn. En France, le revenu moyen d'un patron du CAC 40 a cru de 4% l'an dernier et il représente en moyenne 240 fois le SMIC. Aux États-Unis, on était en 2013 à 300 fois le salaire moyen d'un salarié américain.
Ces niveaux de salaire que l'on peut qualifier de stratosphériques, est-ce qu'ils ont tout de même des vertus économiques ?
Bien écoutez, les talents sont rares et donc chers, ont longtemps argumenté ces patrons gourmands. Mais aucune théorie ne soutient que la réussite d'une entreprise dépende seulement de son dirigeant. Certains analystes très sérieux privilégient même la météo pour expliquer les performances d'une entreprise. Deuxièmement, le lien de causalité entre l'évolution des actions et le salaire des patrons n'est pas non plus très convaincant. Et puis ce lien est parfois piétiné par les patrons eux-mêmes qui s'octroient des hausses de salaire alors que les résultats de leur groupe sont en baisse. C'est le cas du patron de BP au Royaume-Uni qui a provoqué les foudres des actionnaires. Autre objection en forme de question au sujet de Carlos Ghosn. Le patron iconique de l'alliance Nissan Renault a empoché en 2015 15 millions de dollars. Serait-il moins bon s'il avait gagné la moitié moins?
Dominique, ces hausses de salaire, elles passent de plus en plus mal dans les entreprises qui se restructurent.
Oui, l'exemple qui fait mal, c'est celui d'Alexandre de Juniac, le patron d'Air France, qui a augmenté son salaire alors qu'il faisait la guerre aux pilotes pour qu'ils acceptent de gagner moins en travaillant plus. C'est inaudible d'un point de vue moral et managérial. Comment obtenir l'adhésion des salariés avec un tel comportement? Ces différences de traitement confortent le pouvoir des plus riches alors que les inégalités sont de plus en plus mal supportées. Étant donné l'ampleur du débat public, le fonds norvégien a décidé de s'y intéresser de près parce qu'il estime que son poids lui confère aujourd'hui une responsabilité morale dans cette affaire.
Oui, ce fonds a fait fructifier les pétrodollars norvégiens en investissant dans des milliers d'entreprises à travers le monde.
Oui, à travers 9000 entreprises exactement. Avec ses 870 milliards de dollars d'actifs, il a la surface financière pour influencer les assemblées générales des multinationales. C'est utile car pour l'instant, les investisseurs engagés dans ce combat sont des poids légers. Le fonds de pension public français vote systématiquement contre des rémunérations supérieures à 100 fois le SMIC, mais il ne pèse que 21 milliards d'euros. Enfin, pour le moment, les actionnaires n'ont que des avis consultatif. En sortant du bois, le fonds norvégien, jusqu'alors neutre sur le niveau des rémunérations des dirigeants dans des entreprises dans lesquelles il a des participations, eh bien, il va certainement redistribuer les cartes. Mais le grand soir n'est pas pour demain. Ce fonds qui se veut responsable n'est pas exempt de tout reproche. Les bonus de ces hauts cadres peuvent représenter le triple de leur salaire fixe, c'est-à-dire bien au-delà des plafonds recommandés par la Commission européenne.